Toutes et à tous. Normalement, on ne dit pas ça avant de prêcher, mais je regrette de ne pas avoir lu un peu plus mes notes. Ça arrive, malheureusement. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour parce que tu nous réunis ce matin pour t'adorer, te louer. Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Merci parce que tu viens pallier à nos manquements, nos échecs, nos imperfections, notre humanité. Merci parce que ton esprit aussi nous inspire, même au travers de la faiblesse. Et nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien. Et nous voulons te remettre ce jour particulier, ce jour spécial, pour que, Seigneur, nous puissions discerner une fois de plus ta personne, ta volonté, ton amour. Amen. La fête chrétienne, c'est comme, oui, mais voilà, ouais, allez, les enfants. La fête chrétienne, c'est la plus importante des fêtes. C'est plus important que Noël, plus important que Pentecôte, plus important que l'Ascension. La fête de Pâques, on commémore la résurrection de Jésus-Christ, énoncée par la parole de Dieu, par la Bible. Cette Pâques qui a eu lieu le troisième jour après sa passion, est-ce que la résurrection est une farce? Est-ce que croire à la résurrection est un suicide intellectuel? En somme, est-ce que nous sommes des imbéciles ambulants, comme le pensait le théologien Josh McDowell, après avoir été, quand il était un professeur universitaire, laïque. D'ailleurs, c'est lui qui le dit. Il dit, j'en avais même rencontré quelques-uns, des imbéciles ambulants. Et il ajoute, j'attendais qu'un chrétien prenne la parole pour pouvoir me mesurer avec lui et l'accabler de commentaires désobligeants. Je pensais que si un chrétien avait la moindre cellule de cervelle, celle-ci devait mourir de solitude. Je n'en savais pas plus. J'étais bien ignorant. Un peu plus loin, il dit, l'un de mes principaux champs de recherche en vue de refuter le christianisme était la résurrection. Un jour, dit-il, un étudiant de l'université de l'Uruguay me demanda, « Professeur McDowell, pourquoi ne pouvez-vous pas refuter intellectuellement le christianisme ?» McDowell répondit, « Pour une simple raison, je ne peux pas donner une explication satisfaisante d'un événement de l'histoire, la résurrection de Jésus-Christ. » Après avoir passé plus de 1000 heures à étudier ce sujet, à faire toutes sortes de recherches, nécessaire, j'ai été obligé de conclure que la résurrection de Jésus-Christ est, ou bien la mystification la plus ignoble, la plus cruelle et la plus perverse proposée à l'esprit humain, ou au contraire, le fait historique le plus fantastique. Fin de citation. La résurrection valide le christianisme. C'est pas rien. Pas Noël, c'est pas... La résurrection valide le christianisme. La résurrection transfère ce qui aurait pu être du domaine de la philosophie au domaine de l'histoire. On aurait pu, mythologie ou je sais pas, mais la résurrection, ça transfère tout ce qui aurait pu être de ce domaine-là au domaine de l'histoire. L'histoire. Ouvrons la Bible. Jean chapitre 20. Et nous allons lire les versets 24 à 31. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Il se tint au milieu d'eux et il dit, « Que la paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Thomas, est-ce que la résurrection est une farce? Non, pas Thomas. Est-ce que c'est une farce? Est-ce que tu t'es intellectuellement suicidé? 3 points. Scepticisme, déception. 2e point, stupéfaction et adoration. 3e point, scepticisme et conversion. Le 1er point, scepticisme et déception. Versets 24 et 25. Messieurs, dames. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Nous n'avons pas affaire ici avec quelqu'un qui ne croit pas au miracle. Hein. N'est-ce pas ? Thomas n'est pas du style à dire que les miracles n'existent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne fait pas partie des philosophes dits matérialistes. Ce n'est pas quelqu'un qui est incroyant. Thomas est un juif pieux du 1er siècle. Thomas connaît très très bien l'Ancien Testament. Thomas a étudié ce Dieu qui a fait des miracles tout au long de l'histoire biblique. Thomas n'est pas comme moi en ce moment, aux prises avec un doute qui découle d'une, d'une expérience familiale négative. Certains sont au courant, ils savent de quoi je parle. Voire d'un état de fatigue générale. Quelle est la nature du doute de Thomas? C'est ça la bonne question. Thomas est tout simplement méfiant. Il est très déçu, religieusement, et il ne veut pas une autre déception. Vous comprenez? Pour les disciples de Jésus, la crucifixion, la mort de leur maître, ça a été catastrophique. Catastrophique. Il a cru intensément que Jésus était bel et bien le Messie promis. Il a cru de toutes ses forces. Mais voilà que cette terrible mise à mort de son maître, la crucifixion, les coups de fouet, les crachats, la couronne d'épines, ben ça a en quelque sorte invalidé ses convictions. Ça a invalidé ce qu'il croyait. Jésus est mort. Il ne sera plus jamais là. Et pour Thomas, prendre ses désirs pour des réalités, ce n'est pas son truc. Il n'a pas envie. En fait, Thomas cherche la foi authentique et pas le fait d'être tout simplement crédule. Il veut la foi authentique. Il ne veut pas simplement avoir une simple crédulité sur le fait que Jésus soit ressuscité. C'est important ce que je vous dis là ce matin, parce qu'on a tendance à utiliser ce passage de la mauvaise manière. Il est en proie au doute de quelqu'un de profondément déçu religieusement et qui ne veut pas être dupé une seconde fois. Thomas n'avait pas envie qu'on le mette au rang des naïfs. Il y a beaucoup de naïfs dans le monde religieux, vous savez. Il faut le dire, il y a beaucoup de gens naïfs. Hein. Il y a des chrétiens qui croient que de la poudre d'or tombe du ciel quand ils chantent les louanges. Hein. Ils le croient. Il y a aussi des chrétiens qui croient dur comme fer que leurs leaders sont des êtres parfaits. Ah, il y a beaucoup de gens naïfs. Hein. D'autres, leur attitude, leur attribut des qualités spirituelles aussi qu'ils n'ont pas. Thomas va demander quelque chose qui est pour lui le plus tangible. Pour lui, il faut qu'il y ait un lien direct avec celui qui a été mis au tombeau et celui qui se présente, soi-disant, dans cette maison. Il veut qu'il y ait quelque chose. En fait, les trous dans les mains prouveront qu'il n'a pas affaire avec un éventuel frère jumeau. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Je ne croirai pas. Marque des mains, des pieds, marque sur le côté. Thomas veut éliminer toute ambiguïté, toute possibilité d'hallucination ou de coup fourré. Tu vois ? Il refuse d'être finalement la victime d'une crédulité naïve. Ne cherche pas à croire de manière naïve. Ça n'intéresse pas, ça. Pour Thomas, c'est difficile d'imaginer que le Messie véritable ait pu connaître déjà une telle honte, la croix. Déjà pour Thomas, juif du 1er siècle, mettons-nous à sa place. Croire que son maître, le Messie, ait pu être tué de cette manière, bafoué de cette manière, blasphémé de cette manière, déshonoré de cette manière, pour lui, c'est pas normal. Et Thomas demande des preuves. Deuxième point, stupéfaction et adoration. Versets 26 et 28, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule mais crois. » Déjà, 8 jours après. 8 jours après. Ce n'est pas une heure après, 5 minutes après, 10 minutes après. C'est-à-dire le dimanche après celui de la résurrection, les circonstances sont les mêmes. Les apôtres sont dans la maison, porte fermée. De la même manière où Jésus est apparu la première fois, ce premier dimanche, eh bien, Jésus apparaît ce dimanche-là. Et Thomas est présent. Shalom. La paix soit avec vous. Shalom. Jésus utilise une expression finalement qui revêt souvent une dimension de bien-être véritable devant Dieu. Parce que le shalom, le vrai shalom, c'est soit en paix avec Dieu. Mais maintenant, c'est fait. Il arrive devant ses disciples, ce shalom, il a une dimension énorme. Vous êtes en paix avec Dieu là. C'est bon. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai fait ce qui devait être fait. Ah, j'ose te poser cette question ce matin. Est-ce que tu es ce matin en paix? Est-ce que tu entends ce shalom? Parce que moi, en lisant le texte, c'est la question que je me suis posée, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Parce que tu peux être au milieu de la tempête, mais si tu es en paix avec Dieu, tu peux être au milieu des souffrances, tu peux être au milieu des difficultés, des problématiques de ta vie, mais si tu peux être en même temps en paix avec Dieu. Bon, en ce moment, ce n'est pas la grande forme olympique. Ce n'est pas facile d'avancer, peut-être. Peut-être aussi qu'il y a de la souffrance, peut-être qu'il y a limite, dépression, burn-out. Mais au milieu de tout ça, en ce matin de Pâques, est-ce que j'entends ce shalom? Que la paix soit avec toi, Kayla, Michel, Tara. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec vous, mes disciples de l'Église protestante évangélique de grâce. Vous savez, depuis les événements de la croix et de la résurrection, les hommes et les femmes peuvent connaître une réconciliation vraie, ultime, la paix avec Dieu lui-même. Bien sûr qu'on attend cette paix complète qui va venir le jour du retour du Seigneur. 8 jours après, Jésus se tourne vers Thomas, et sans qu'il ait été présent lors de des objections, hein, parce qu'il n'était pas, là quand Thomas a dit « mais je veux voir ceci, ici je ne vois pas ça, et patati », il n'était pas là. Et pourtant, il lui dit « avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois ». Et Thomas répond « mon Seigneur et mon Dieu ». Vous savez, cette déclaration, si vous regardez bien l'évangile de Jean, ça vient en quelque sorte un peu clôturer ce livre. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jean, l'évangéliste, il joue un peu avec ça. Vous voyez, au début, c'est Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Hein, d'accord ? Et là, il clôture un petit peu ce livre avec cette parole de Thomas qui vient, ben, mon Seigneur et mon Dieu. Comme dirait le théologien Don Carson, qui m'a beaucoup inspiré pour la préparation de ce partage, il nous faut résister à l'envie de passer rapidement sur cette confession. Il nous faut résister à l'envie de passer rapidement sur cette confession. Elle est énorme. Premièrement, je sais qu'il y a des anciens témoins de Jéhovah ici. Témoins de Jéhovah ont beaucoup de mal à prendre ces versets au pied de la lettre. Beaucoup, beaucoup de mal. Pour eux, Thomas parle par surprise. Oh mon Dieu, oh my God. Imaginez maintenant un juif pieux, comme Thomas, du 1er siècle. Imaginez un juif pieux du 1er siècle dire, oh mon Dieu. C'est un blasphème. Pour le juif pieux du 1er siècle, s'écrier, utiliser le nom de Dieu en vain, c'est un blasphème. Donc cet argument, il ne tient même pas la route, quoi. Deuxième question qui se pose. Comment se fait-il que Thomas aille aussi loin ? Pourquoi il ne se contente pas finalement d'un Jésus, tu es vivant ? Waouh ! Ouais ! Pourquoi il va dire ça, quoi ? Vous savez, entre le verset 25 et le verset 26, 8 jours se sont écoulés. 8 jours se sont écoulés. D'accord ? Pas rien, 8 jours. 8 jours, tu as le temps de réfléchir, quoi. 8 jours, tu as le temps de gamberger. Surtout quand tu entends à droite, à gauche, « Ouais, je l'ai vu, ouais, il est vivant. » Ouais, tu as le temps de gamberger. Alors, Thomas, il se... Jésus vivant. Bah, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, j'y crois pas. Pourtant, les autres sont convaincus. Ils l'ont vu. Oh, il doit faire erreur, c'est pas lui. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas être vivant. Mais supposons qu'il le soit. Allez. Supposons qu'il soit vraiment vivant. Qu'est-ce que ça signifierait ? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il me faut une preuve. Il ne peut pas être vivant, mais supposons qu'il le soit. Thomas est en plein conflit intérieur, ça se bataille. Et finalement, il ne peut pas s'empêcher de repenser à toutes les paroles qu'il a entendues de la bouche, même du Seigneur Jésus. Il était là. Et en particulier celles qu'il a entendues la nuit où il a été trahi, condamné puis crucifié. Jésus a dit l'un d'entre eux, mais en présence de tous. Il y a aussi longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Thomas, il réfléchit à ça. Il se souvient de ça. Il l'a entendu. Alors bien sûr, à cette période, les disciples n'ont pas très bien compris. C'était encore un mystère de plus. Maintenant, par contre, si Jésus est vraiment ressuscité, là, c'est plus pareil. C'est plus la même histoire. Alors ça, vous allez dire, ça tombe bien puisqu'on étudie l'évangile de Jean. On repassera certainement sur ce passage-là, mais on est en plein dedans, là. Et Thomas se voit forcé, finalement, de réfléchir un tout petit peu plus à toutes ces déclarations. Thomas était présent lors de la guérison du paralysé, qu'on retrouve aussi dans l'évangile de Marc. Thomas a entendu les théologiens murmurer entre eux, « Mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul ?» Il a entendu ces choses-là. Pendant ces 8 jours qui s'écoulent, Thomas se pose des questions. Il est pas. C'est ça qui est. C'est fou, hein, dans la Bible, c'est ça qui est impressionnant, parce que d'un verset à l'autre, tu es 8 jours après, une semaine après, 100 ans après, tu vois. Alors, il faut prendre en compte ces choses-là. Il y a une grande vérité qui concerne le pardon dans la Bible. Peu importe de qui nous cherchons le pardon, il nous faut d'abord obtenir le pardon de Dieu. Sinon, nous n'avons rien. Je peux te demander pardon, mais la première des personnes à qui je dois demander le pardon, c'est à Dieu. Si Dieu n'était pas sur la croix, nous ne pourrions pas obtenir le pardon par l'intermédiaire de Jésus. Et la résurrection, finalement, n'aurait pas grand intérêt, ni pour vous, ni pour moi. Jésus, ce n'est pas le mégalomane qui se prend pour Dieu. Comme il y a un livre qui a été écrit, je ne me souviens plus, le nom au bout de la langue, l'homme qui devint Dieu, ou qui se prend pour Dieu. Bon. En une semaine, Thomas a intégré ce qu'on appelle plus tard la doctrine de la Trinité. La résurrection, c'est Dieu Tout-Puissant qui vient nous visiter. En 8 jours, il a fait son école biblique. C'est un truc de fou. Au cours des derniers mois de la Première Guerre mondiale, des poètes ont traduit en vers les impressions que cette guerre avait laissées. Et un dénommé Édouard Chilito a écrit « Jésus aux cicatrices ». Deux strophes de ce poème rappellent Jean 20. Où Jésus apparaît aux disciples dans la chambre haute, derrière les portes fermées. Écoutez bien. « Quand tu t'approches de nous, derrière ces portes closes, montre tes mains et ce côté qui est le tien. Aujourd'hui, nous savons ce que sont tes blessures. Montre tes cicatrices. Nous connaissons le mot de passe. » Les autres dieux étaient forts, mais toi, tu es faible. On les portait, mais toi, tu trébuchais vers ton trône. À nos blessures, seules les blessures de Dieu peuvent répondre, car nul Dieu, petit dé, n'a de blessures comme les tiennes. C'est bien, hein? Il n'y a aucun doute, Jean, quand il écrit son évangile, il saisissait ces choses-là. Il a saisi tout ça. Jésus est notre Seigneur, mais il est avant tout mon Seigneur et mon Dieu. Et comme Thomas, ce matin, nous pouvons dire individuellement, chacun de nous, mon Seigneur et mon Dieu. Troisième point. Scepticisme et conversion. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Combien de fois on a détourné ce verset, même nous-mêmes en tant que chrétiens. C'est comme si Jésus aurait sous-entendu que ceux qui n'ont pas vu seront plus bénis que Thomas. Qu'en quelque sorte, il a loupé le test. T'as loupé le test, Thomas. Franchement, t'assures pas, quoi. C'est totalement faux. Mais ça colle très bien à notre société. À fond. C'est très bien. Dans l'air du temps, ça se colle. Notre humanité, dont la pensée est très loin de celle de Dieu. Jésus n'est pas en train de dire, Thomas, tu as cru maintenant ? Tu m'as maintenant ? Que tu m'as vu ? Très bien. Sache que ceux qui croient en moi, sans me voir, auront une foi bien supérieure à la tienne. Ils seront vraiment heureux et bénis. Ça sera des gens géniaux. Toi, tu as manqué cette bénédiction. Parce que tu voulais voir avant de croire. Thomas. Non, Jésus ne dit pas ça. C'est une fausse interprétation, mes amis. Le problème vient que dans notre société, le mot « croire » ou « foi » sert de synonyme au mot « religion ». Il y a plusieurs fois et il y a plusieurs religions. Alors, la signification la plus commune est que la foi est perçue comme un choix ou un engagement religieux personnel et subjectif. C'est-à-dire que la foi n'a rien à voir avec des faits ou des réalités historiques. C'est un choix religieux. C'est perso. C'est quelque chose qui t'appartient. Finalement, ça ne sert pas à grand-chose, c'est subjectif. Tu as ta foi, moi j'ai la mienne, Et finalement, il semble impossible de juger des distinctions entre l'une et l'autre, parce que finalement, on ne peut pas trancher. Aucune des fois n'est rationnelle. Aucune foi n'est rationnelle. Alors on ne tranche pas. En fait, il existe même des gens qui se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils croient quelque chose. Et de l'autre côté, les non-croyants se marrent parce que pour eux, la définition de la foi, quelle que soit la foi, c'est quelque chose que le croyant imagine être vrai, mais qui est impossible à prouver. Comprenez pourquoi c'est faux, cette interprétation du texte ? Parce que pour le commun des mortels, pas croyant, ben la foi c'est subjectif. Tu ne peux pas le prouver. C'est, quelqu'un a dit que toutes les fois se fondent sur des choses inventées de toutes pièces. C'est la définition même de la foi qu'ont les gens qui nous entourent, même parfois certaines personnes qui fréquentent les églises. Par tradition. Alors si ma pensée est celle-là, je n'aurai aucun scrupule à tordre le sens du verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et finalement, je vais soutenir qu'une foi sans aucune base vraiment solide est supérieure à toute autre. Il suffit de croire que Jésus est ressuscité des morts pour que la foi soit authentique et qu'en plus elle soit bénie. Tu crois que Jésus est ressuscité des morts ? Ben c'est super, tu es béni. Même des pasteurs, vous imaginez, des pasteurs, ont affirmé que si l'on découvrait le tombeau de Jésus avec les ossements à l'intérieur, leur foi resterait la même car Jésus est ressuscité dans leur cœur. Vous suivez mon raisonnement ? Non mais, tu crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts et il ne l'est pas. Ta foi, elle est comment ? Futile ! Vaine ! Ça ne sert à que dalle ! En d'autres termes, l'une des choses qui valide notre foi, comme j'ai dit au début, c'est précisément la véracité de son objet. Il est ressuscité ! Il l'est ! C'est pas... Il l'est ! S'il ne l'est pas, on est les plus malheureux des hommes. Bien entendu que croire signifie bien plus que la simple véracité d'un fait, on est d'accord. Après tout, les démons croient que Jésus est ressuscité. Ils savent très bien qu'il est ressuscité d'ailleurs. Mais cette foi ne change rien en eux. Mes amis, la Bible ne nous demande jamais de croire en quelque chose qui ne serait pas vrai ou ne pourrait pas l'être. Je découvre quelque chose, je redécouvre ça. Je pense que nous venons d'écarter une fausse interprétation du verset 29. Jean lit ce verset aux deux suivants. C'est pour ça que c'est bien de voir les versets qui suivent et les versets qui sont avant. Versets 30 et 31, Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On est encore dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, etc. Oui, Thomas croit réellement, il croit. Et Jésus, comme Jean, savent que beaucoup de gens viendront à croire en lui sans l'avoir vu comme Thomas l'a vu, réellement ressuscité. Ils le savent. Jésus va monter au ciel, jusqu'à son retour, il ne se présentera plus physiquement comme il l'a fait aux premiers disciples. Mais il y a une multitude de personnes, dont vous et moi, eh bien, nous bénéficions de cette résurrection. Nous croyons que Jésus est ressuscité des morts. Nous ne pouvons pas toucher les plaies de Jésus, comme Thomas l'a fait. On ne peut pas le faire. Nous ne verrons jamais Jésus ressuscité en train de manger du poisson, etc., aux côtés de la mer de Galilée. Sur quelle base est-ce que nous fondons notre foi ? Jésus dit que ceux qui ont cru sans avoir vu sont heureux. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont cru sans avoir une seule preuve ? C'est ça ? Est-ce que vous pensez que c'est ce qui est écrit dans le texte ? Moi, je dis non. Jean poursuit en disant immédiatement que Jésus a fait encore beaucoup d'autres signes, et qu'il n'est pas question de tous les rapporter. Mais ceux-là sont rapportés pour nous. Il y compris l'apparition à Thomas, sont écrits afin que les générations futures, vous et moi, nous puissions avoir accès, et nous qui voyons jamais de signes, enfin, ces signes-là, nous verrons pas, nous n'avons pas vu le corps de Jésus devant nous, avec les mains, etc., nous puissions croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Vous savez, ces documents, la Bible finalement, qui ont été écrits pour la première génération de témoins, est le moyen par lequel les générations futures, vous et moi et nos enfants, vont pouvoir avoir accès aux témoignages historiques de ce qui concerne la résurrection de Jésus. Et le témoignage de Thomas, finalement, il a vu, il a cru, et il est en train de nous inciter à nous de croire, parce qu'il a vu, il a cru. Nous imitons sa foi. Thomas, c'est un sceptique, puis Jésus lève les doutes lorsqu'il apparaît. Pour terminer, je vais vous lire... Non, je ne peux pas vous le lire. J'ai oublié mon livre. Chez moi. Je vous le lirai la prochaine fois. Ah là là. Je vous l'enverrai par mail. C'était un poème. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien de réfléchir à la résurrection. Vous savez, ma famille non-croyante, depuis quelques mois, par des événements que certains connaissent, en sont arrivés finalement à se moquer de Dieu. L'homme dont on s'est moqué en le clouant sur la croix, en lui mettant une couronne d'épines, en mettant un panneau, voilà, le roi des Juifs. Ah, tiens, le roi, tiens. Il était bel et bien roi. Il est bien, bel et bien roi. Nos situations, des fois, dans nos vies, nous montrent que nous sommes totalement impuissants. On ne peut rien faire. C'est comme ça. Mais l'homme qui était privé de tout pouvoir détient tout pouvoir. On ne peut pas se sortir nous-mêmes des épreuves par lesquelles nous passons. On peut encore moins se sauver nous-mêmes. L'homme qui ne pouvait pas se sauver lui-même sauve les autres. On crie parfois de désespoir. On est désespéré. Certains même ne se gênent pas d'appuyer sur ce désespoir pour nous écraser encore plus. L'homme qui crie de désespoir fait pleinement confiance à Dieu. Dans le jardin de Gethsémané, le Seigneur, il était dans un état lamentable, au point qu'il suait des grumeaux de sang. Mais il a gardé cette confiance au Père. Même la mort. Mes amis, ce matin, nous fêtons Pâques. C'est vrai qu'on en a peur. C'est vrai que ça nous fait trembler. C'est vrai que quelque part, on n'a pas envie de souffrir. C'est mystérieux comment ça va se passer, ce moment. Mais la mort ne peut nous retenir parce que nous avons placé notre confiance en cet homme. Car il est Dieu. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Souvent, je signe la fin de mes emails par « Il vit ». Et on a chanté le chant tout à l'heure, « Il vit ». Peut-être on pourrait le rechanter, ce chant. C'est possible ?« Il vit ». Ah ouais ? Oui, on en a. On en a, en ce moment, on en a plus que d'habitude. Il vit. On chante Il vit ? Je vais prier pour nous. Seigneur, merci pour ta grâce, merci parce que tu vis, tu es vivant aujourd'hui. Et nous sommes reconnaissants de pouvoir lire dans ta parole cette histoire de Thomas qui nous encourage. Seigneur, c'est vrai qu'il a vu, il a mis ses mains sur tes blessures, il a vu, il a touché, il a senti. Seigneur, nous voyons aussi ta présence dans nos vies, même si parfois les circonstances sont difficiles. Mais Seigneur, nous pouvons nous retourner, voir ce que tu as fait pour nous, et nous sommes reconnaissants. Seigneur, merci pour ta présence ici ce matin au milieu de nous. Merci pour cette commémoration de ta résurrection. Tu es vivant. Amen.